Leïla, soyez les bienvenus avec Leïla Gadeau-Boudadi, Morgan Gabillon, Jérémy Crédville, Tanguy Bastureau, Daniel Morin et notre invité Riyad Satouf. Qui doit, je pense, au moins être celui que nous avons le plus invité dans cette émission.
C'est sûr.
Ouais. C'est Jean. Mais en tout cas, il le mérite parce
Il y a toi qui passes un peu plus.
Entre l'arabe du, entre l'arabe du futur,
le
cahier d'Esther et son talent de d'auteur, de dessinateur, de scénariste.
Ses qualités humaines.
Toujours, alors non, ça par contre, on va oublier. Ouais. On est toujours
ravi
de.
J'aime pas le dessinateur, mais j'aime
l'homme. On est ravi de l'accueillir. Il publie en effet les 15 ans, l'histoire de mes 15 ans, puisque systématiquement, c'est l'histoire d'eux. Et puis, l'année change avec ses 52 semaines, finalement. Raconté par Riyad Satouf dans les cahiers d'Esther, extrêmement organisé et là totalement plongé dans le confinement, évidemment l'adolescence, passé à 15 ans, la boum, les premiers verres d'alcool,
les hormones,
les premiers réseaux sociaux, les premiers amours. Les premières amours, tu as raison, féminin au pluriel, orgue, délice et amour, c'est génial.
Ouais.
Riyad Satouf, donc dans quelques instants, quel est le thème à votre avis? C'est parti pour le blind test.
Leïla.
Leïla.
Je l'ai pas.
Trop tard.
Tanguy.
Quoi? Amel Bent.
Amel Bent. Oui. Ah, mais oui, mais en fait, pourquoi je l'ai pas?
La licence recoiffant. Un air négligé. Ça me
fait pas mal. J'en sais là, mais j'ai une quoi.
C'est ton rayon, Tanguy.
Encore et encore des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai.
Ah ouais.
J'en ai déjà fait, mais toujours le relevé.
Attention, qui chante?
Morgan.
Ouais,
James Blunt.
Ouais. Oh. Tanguy.
Mais c'est l'année 2005.
Il est super drôle sur Twitter.
Pourquoi l'année 2005?
Parce que moi j'avais 15 ans en 2005. Narcissisme de croire que ce blind test m'est dédié.
Oui, c'est pour toi.
C'est 15 ans. D'accord, 15 ans en 2005. Oui. Donc mes 15 ans pour les cahiers de Esther en 2005.
Ah. Parce que c'est deux
types de
choses.
Et si c'était tout simplement l'année de naissance d'Esther?
C'est vrai.
2005.
Ah.
Morgan, Raphaël, mais c'est tous les tubes de
moi. Le problème, c'est
l'adolescence, quoi.
En 2005, j'écoutais déjà des chansons de 77, donc forcément.
C'est pas Raphaël, ça?
C'est le décalage horaire, ça.
Ah ouais.
Et nous partons, allez, viens. J'ai très très peur du carton total. Non mais Tanguy, arrête.
Mais 2016,
Tanguy, on joue.
Ah, oui, d'accord,
même quand on perd, on joue.
Non, mais
même si j'aime pas ça.
Tu plaisantes, tu plaisantes. Ça n'existe pas, la démission.
Là, il arrive. Ah bah.
Non,
non, c'est Madonna. Madonna. Avant, en
2005, oui. Ça ressemblait à des
Abba. Ça ressemblait.
Ce qui est con, c'est qu'elle va se faire doubler sur le carton.
Comme d'hab,
pardon.
Ce qui est con, c'est qu'elle va se faire doubler à la fin sur le bonus.
Sur Madonna, ouais,
sur Super Banco.
Évident.
Ah non, c'est
Morgan.
Pas.
Oh, c'était horrible cette chanson.
C'est pas la mouche à la con là.
Non, c'est Crazy Frog.
Ah oui.
Oh,
bien joué, Morgan.
C'était ma sonnerie de portable en polyphonie, quoi. Allô. C'est l'enfer cette musique. Tu te souviens? Il est en scooter.
Enfin, ça, c'est... Bip, bip. C'est Axel F, enfin c'est le flic de Beverly Hills.
Ouais.
Jérémy, alors c'est tout le bonheur du monde. Et c'est comment il s'appelle?
Sinsé.
C'est pas Trio?
Sinsé.
Milia.
Sinsé.
C'est Milia?
Oui.
Sinsé Trio.
C'est Tanguy, Sinsé Trio. Tanguy a mis un point.
Non, non,
tu... En 2005, tu dis? Ah ouais. Aujourd'hui comme
pour demain. Alors, pour l'instant, 5 points pour Morgan, 1 pour Jérémy, Leïla, Daniel, toi, tu envoies des textos, quoi. T'es carrément.
Il a lâché.
Bah non, laisse tomber.
Oh, il triche.
Il en reste plus qu'un. Et
ah, c'est le Super Banco.
C'est le Super Banco. Ah.
Et c'est pour Daniel.
Ah là là.
Et j'aime bien.
Allez, je sais que non. Mais si, tu vas le faire, allez.
Jérémy, c'est la camisa negra.
Oh,
ta petite tengo la camisa negra.
Juanes. C'est très mérité.
Je crois qu'en fait j'étais décédé en 2005 et que je suis revenu à la vie en 2006 parce que j'ai rien vécu de tout ça.
Tu as jamais entendu ça?
Vraiment de loin.
C'était pas mal, hein?
De loin.
Monsieur Jérémy Crédville,
bravo,
emporte le blind test.
Ça me touche.
C'est la première fois, d'ailleurs.
Oui. Merci d'accueillir Riyad Satouf.
Bravo.
France Inter, la bande originale.
Et oui, nous avons rendu Riyad bienvenue. Nous avons fait un clin d'œil aux 15 ans d'Esther, donc avec l'année 2005 qui serait l'année de sa naissance, si cette fille existe quelque part. Mais il paraît qu'elle existe vraiment quelque part.
Elle le dit à tout le monde, justement.
Ah oui, elle existe, bien sûr qu'elle existe.
Comment inventer de telles histoires,
c'est ça. Oui, c'est pas...
Il y a une jeune fille qui est rentrée dans le studio en même temps que Riyad, c'est pas...
non, c'est une photographe. Beaucoup plus âgée, parce que donc, elle fête...
Ah bah bravo. Désolé, madame.
Elle a clairement plus de 15 ans, en tout cas. Excuse-moi.
C'est ça.
Elle fête ses 15 ans, d'ailleurs, dans ce volume. Il y a toute une soirée organisée. Et toujours le même procédé, Riyad, depuis l'idée, la naissance de ces cahiers d'Esther. Des rendez-vous réguliers, une planche par semaine, et on fait une année.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, elle a grandi. Donc, déjà, je la vois moins souvent, mais on se téléphone quand même assez régulièrement. Avant, elle était très volubile, puis vers 12-13 ans, elle a commencé par devenir très très molle, parce qu'il y a eu un moment où je pense que les hormones ont... Bon, alors j'ai essayé de mettre en scène cette mollesse, et puis là c'est marrant parce que c'est en train de revenir la volubilité. Elle a passé un cap, et donc là, elle se remet à me raconter plein de trucs, mais donc c'est toujours le même...
Elle n'a pas plus de secrets qu'avant, justement, maintenant ?
Oui, mais justement, je ne cherche pas spécialement les secrets, voilà, je ne lui demande pas des trucs intimes particulièrement.
Elle a un chéri, quand même.
Et pourtant, oui, voilà.
Elle a un bel crime.
Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle me raconte ses histoires avec ses mecs 6 mois après que ce soit terminé.
Mais oui.
Donc c'est ça qui est rigolo aussi, parce que voilà, je cherche pas le sensationnel, mais sa façon de voir les choses. Et c'est vrai que dans ce volume, elle commençait l'année vraiment sur les chapeaux de roue, elle avait un mec, elle était la plus âgée de son collège, donc c'était la plus grande et tout. Donc elle pensait que ça allait être dément, et paf, pandémie.
Et voilà, et c'est là où on a le point de vue d'une adolescente sur la Covid ou le Covid, c'est-à-dire que on peut imaginer, et c'est ce qu'elle dit de toute façon, le manque de rapports humains, les copines manquent, et ainsi de suite, mais il y a des bons côtés de la pandémie. Faut avoir du courage, hein, pour se dire là, alors qu'on est en train de aujourd'hui de pouvoir enlever les masques à l'extérieur pour la première fois, de se dire il y a des bons côtés la pandémie. Mais elle, évidemment, c'est des bons côtés en termes de ne plus voir un mec, en l'occurrence, c'est ça, d'éviter de le voir, en tout cas.
Oui, voilà, c'est vrai qu'elle sortait avec quelqu'un qui la faisait légèrement flipper. En fait,
qui était plus beau en vrai que dans la photo de profil sur Insta.
C'est assez rare, quand même.
En fait, elle a eu le droit de faire un profil Instagram. Et donc, alors que son père ne voulait pas, etc. Et immanquablement, tout de suite, elle a attiré un psychopathe qu'elle a rencontré en vrai, avec qui elle est sortie, en fait, et qui s'est avéré, en fait, être un peu un psychopathe.
Elle est jusqu'à l'inviter à la maison, ce qui est quand même très, très risqué. Et tout ça, évidemment, sous l'œil bienveillant de sa maman, qui n'est pas souvent présente, sa maman. Le papa est très présent. La maman vient d'une manière un peu, comme ça, épisodique, à dose homéopathique. Lui, il est très présent. Il fait même des cours de gym filmés par sa fille, puisque c'est un prof de gym. Et en période de pandémie, pourquoi pas faire une chaîne YouTube en donnant des conseils.
c'est vrai que, voilà, je suis les histoires que me raconte la vraie Esther, elle a tendance plus à me parler de son rapport avec son père qu'avec sa mère. Mais de temps en temps, sa mère apparaît quand même dans les histoires. Mais c'est vrai que bon, son père, c'est une figure un peu... Il est extrêmement viril, prof de sport, protecteur, très...
Non, mais elle s'en rend compte et elle le définit extrêmement bien. Le boulot de sa maman, elle a plus de mal. Et elle finit d'ailleurs, grâce au télétravail et au confinement, à comprendre en quoi ça consiste exactement,
les assurances.
Ce métier.
Je crois que c'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup de jeunes ou de gens même qui ont compris ce qu'était le travail ou de leurs parents ou de leurs conjoints pendant le confinement. Entendant discuter.
Il y a surtout beaucoup de parents qui ont compris ce que c'était que le métier de prof aussi pendant le confinement.
Tu m'étonnes.
Les cahiers d'Esther.
Pour deux raisons différentes, voilà. Tu m'étonnes.
L'histoire de mes 15 ans chez Alary Édition, c'est évidemment un bonheur total de lire. Et puis en plus, j'en ai profité pour faire lire aussi ce livre à mes enfants. Et peut-être pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas spécialement échangé sur le. Qu'est-ce que tu as trouvé drôle ou qu'est-ce que tu as aimé? Par contre, le résultat est le même pour tout le monde dans la famille. C'est j'aime, c'est drôle et ça fait puis ça fait réfléchir et ça fait du bien et puis on l'aime cette Esther, on l'aime. C'est pas le cas de Morgane.
Allez,
c'est un cadeau.
peut-être qu'elle aime Esther, mais en tout cas, elle ne vous aime pas, Henriette.
Riyasette Souf, je vous aime pas. Vous venez aujourd'hui nous parler des cahiers d'Esther, volume 6000, je crois. cette année, enfin, Esther a 15 ans. Elle entre en 3e. Et autant vous dire qu'Esther est part en couille. Et ça boit, ça teste la clope, ça scroll Instagram. À ce rythme-là, dans le tome 7, elle part faire le djihad, quoi. Ou pire, elle s'inscrit pour un CAP petite enfance. Bref, une vraie sortie de route, quoi. Faut absolument que les parents reprennent la main à la Riyad, hein. Et ses parents, c'est vous, d'une certaine façon. Donc, c'est bien de venir ici 13 fois par an pour compter les cheveux blancs de Nagui. Mais occupez-vous de votre gosse, quoi. Et puis, j'ai compté, il y en a 900 000, un cheveu par invitation de Riyad Satouf dans l'émission. Après, faut la comprendre, Esther. Elle est en plein dans l'adolescence. C'est pas facile. Le prochain tome, si on le veut réaliste, il devrait s'appeler Les cahiers d'Esther que t'as pas le droit d'ouvrir parce que c'est ma vie, ok? J'en ai ras le cul d'avoir zéro intimité dans cette baraque pourrie. En général.
En général, à ça,
tes parents te répondent, bah, tu feras comme tu veux quand tu seras chez toi, ma grande, mais pour l'instant, tu es chez moi. Et chez moi, on lance le lave-vaisselle quand on est le dernier à le remplir.
C'est pas un hôtel.
Et cette phrase, et c'est pas Versailles non plus. Et cette phrase, quand t'as 15 ans, t'as envie de mettre des coups de poing dans le mur et de passer des coups de fil à l'eau du pont Moretti, c'est comment déjà pour s'émanciper? Alors, sans vouloir divulgâcher le principe même de l'existence, à 15 ans, tu gueules sur le lave-vaisselle. À 35 ans, une éponge mal essorée, ça peut être un déclencheur de divorce avec partage de biens. D'ailleurs, bel été à tous ceux qui partiront avec leurs potes en vacances, vous savez. Ceux qui font semblant de pas voir que la poubelle est pleine et qui la tasseront comme ça. Mon astuce, la voulez-vous? Vider la poubelle dans leur lit. Premièrement, l'odeur des déchets nous changera un peu de l'odeur permanente de menthe qui plane H24 à cause des mojitos de Fabrice. C'était un cocktail à la mode sous Chirac, Fabrice. Va donc niquer ta mère. Alors, attention! Attention, il va revenir l'année prochaine avec de l'apérole dans la main en vous parlant de Spritz comme s'il avait trouvé la cité perdue. Bref, ouais. Ne partez pas en vacances avec Fabrice, c'est un con. On le supporte vraiment juste parce que c'est sa baraque. Mais pour en revenir à Esther, c'est pas facile ce qu'elle vit. L'adolescence, cette douce période où tout est possible mais où rien n'est possible. T'as plein de rêves mais tu sais pas par lequel commencer. Alors le plus facile, ça reste de dire que t'en as pas. Comme ça, on n'est pas déçus. Moi, à l'âge d'Esther, dans le dernier tome, j'ai changé des feuillets d'idoles dans la cour comme des clubs en prison. Les feuilles qui étaient parfumées, mais laisse tomber, je pouvais tuer ma mère. D'ailleurs, j'ai tenté. Un bel été au centre de détention pour mineurs de Porcheville. En même temps, j'ai tenté de tuer ma mère avec un couteau à beurre. C'est pas grand chose pour Xavier Dolan, raté. En tout cas, moi, quand j'avais 15 ans, en 2005, on est en plein dans le début de la télé-réalité. Benjamin Castaldi ne ressemblait pas encore à une éponge mal essorée qui cause tant de remous dans les ménages. Chimène Badi gueulait à qui veut l'entendre qu'elle venait du Sud. Amel Bent n'avait qu'une philosophie. C'était pas qu'une belle année, c'était la guerre en Irak et Jacques Villeray est mort. Mais assez de nostalgie, c'est pas un bon sentiment, c'est pas une radio terrible non plus. Tournons-nous vers l'avenir, vers la jeune génération, tournons-nous vers l'Esther du futur. Par contre, Riyad, maintenant que j'ai fait ce petit jeu de mots avec l'Esther du futur, ne vous sentez vraiment pas obligé d'écrire les cahiers de l'arabe.
Merci. Morgane Kelly. Elle est tendre. Oui, alors je parle évidemment de Morgane, mais elle est tendre, elle est attachante et elle est beaucoup moins, comment dirais-je. En crise qu'elle pouvait être dans le, elle est plus régulière, voilà, elle est plus.
C'est pas Morgane du tout, ça. Ouais.
J'allais dire prévisible, et c'est péjoratif quand on dit que quelqu'un est prévisible. Donc, elle est cohérente avec elle-même. Elle se laisse porter par cette pandémie, par Insta, par son changement de bahut aussi, par la rentrée, par la volonté de goûter ce que ses potes goûtent. Se dire si on fait une soirée sans alcool, je serai pas branché, les copains vont pas venir, donc il faut qu'il y ait de l'alcool. Quelqu'un fume une clope dans un coin, il faut que j'aille goûter, sinon je suis la ringarde de service. Et elle n'est pas en train de balayer tout du revers de la main avec Adieu monde cruel.
Non, c'est vrai que c'est pas une ado rebelle non plus. Alors c'est
oui, elle aime papa, elle aime maman, voilà. C'est ça. Oui.
Comme elle le dit elle-même, elle dit ouais, moi je suis une gentille, etc. Mais alors elle a des copines qui sont assez terribles. Qui vraiment sont dans ce qu'on imagine chez les ados, c'est-à-dire qui sont en crise avec leurs parents, qui font, mais elle, voilà, elle a ce côté très posé, et c'est vrai qu'elle a gagné beaucoup en maturité pendant cette pandémie. Alors le fait d'avoir été aussi pas mal enfermée, de pas avoir eu beaucoup de rapports avec ses copines, etc., elle s'est mise à réfléchir. Au moment, quand elle était petite, c'était une petite furie, en fait.
Après,
à
9,
10 ans, elle était terrible.
Il y a quand même des clashs avec les parents, toujours autour du téléphone portable, des réseaux sociaux.
C'est
clash avec
bien,
son, avec son frère
téléphone.
Aussi.
Les règles du téléphone portable, c'est quand même.
Pour aller à l'école, oui, mais
ouais.
Quand tu rentres à la maison, tu
droguée de son téléphone.
De 17h ouais. À 21h le week-end, mais sinon, il y a quoi, 2 heures de temps le soir, et puis il faut le laisser ensuite aux
visible.
Parents.
Voilà, c'est
pour
ça.
Ensuite le reprendre le lendemain matin, quoi.
Elle se lève le matin très tôt pour vérifier si son père n'a pas oublié son téléphone sur la table pour pouvoir le regarder.
Et pour rattraper surtout toutes les stories,
tous les messages.
Les dialogues avec les copines.
c'est vrai que toutes ses copines et ses potes, ils parlent jusqu'à 3h du matin sur WhatsApp, etc. Donc il y a une vie parallèle de la classe. Ouais. Elle m'a montré les discussions. C'est très difficile à mettre en bande dessinée parce que c'est des discussions WhatsApp. Mmh. Donc je sais pas, j'ai pas encore trouvé complètement le moyen de le mettre en scène. Mais c'est hilarant. C'est-à-dire ils se parlent jusqu'à 4h. Il y a celui qui se couche en dernier, qui est censé être le mec le plus classe. Mmh. C'est celui qui a le moins besoin de dormir. Et le matin, ils sont tous défoncés. Enfin, défoncés dans le sens
fatigue,
ils
n'ont
pas dormi. Ouais. Ils sont des zombies dans la cour.
Il y a au bas de chaque planche, vous rappelez d'après une histoire vraie. Et alors cette notion de d'après, quel est l'évolution au-delà de l'humour? Est-ce que c'est votre interprétation de ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous extrapolez? Est-ce que vous essayez d'avoir comme un troisième œil sur sa propre vie? Ou est-ce que vous êtes le plus fidèle possible à ce qu'elle fait? Ou est-ce que vous rendez drôle tout ce qu'elle vous raconte?
Je crois qu'il y a une manière peut-être de rendre drôle ce qu'elle raconte, parce que pour elle, c'est pas toujours forcément drôle. Mais la situation en elle-même est quand même marrante. C'est-à-dire quand on se fait confisquer son téléphone portable, moi, je trouve ça rigolo, parce que ça n'arriverait pas à un adulte. Il y a un côté un peu cocasse, quoi. Donc c'est vrai que j'essaie de la rendre drôle, mais je dissimule quand même beaucoup la réalité. Et souvent, alors avec le temps, ces histoires deviennent de plus en plus précises. Et c'est vrai que c'est compliqué de raconter certaines histoires. Donc j'attends souvent un an pour certaines histoires. C'est-à-dire que...
Mais pardon, en quoi une histoire est compliquée parce qu'elle est précise?
Au contraire, parce que j'ai peur qu'on la reconnaisse dans la vie. Mmh. Ah. Je veux pas que des gens viennent la voir et disent « Ah, bon, c'est toi la vraie Esther, s'il te plaît, par rapport à
deux cents. » Oui, mais elle le dit, Esther.
Pardon, oui, elle le dit de plus en plus. Hein, que c'est...
Oui, mais elle le dit à ses copines. Mais genre, ses copines, elles disent « Non, maintenant, je te crois pas. » Parce qu'en fait, elle lui ressemble, mais de loin. Enfin, c'est pas un... Elle l'a dit à quelques personnes, mais j'ai... Souvent, quand elle dit du mal de gens ou qu'elle parle, par exemple, dans ce volume, je crois qu'il y a un moment où elle parle d'un type qui fume des joints, etc. Je veux pas qu'ils viennent l'embêter.
Ouais,
ouais,
ouais.
Mais en tout cas, elle, dans la bande dessinée, elle croise dans un magasin, on va pas divulgâcher la chute, elle croise Angèle, ça la démange, elle la voit en disant « Vous avez déjà été présente dans la bande dessinée, donc vous savez qu'elle existe, donc c'est moi la vraie Esther qui vous a croisé, entre guillemets, dans une bande dessinée. » Elle se pose la question, ça la travaille plus qu'avant.
Oui, c'est vrai, mais de toute façon, la célébrité de cette BD lui est arrivée dans sa vie, parce qu'en fait, elle s'en moquait un petit peu de cette bande dessinée au départ, lui est arrivée surtout dans sa vie à part Angèle. Justement, c'est assez drôle, parce que la chanteuse, un jour, a posté sur son compte Instagram une image des cahiers d'Esther, et c'est là que la vraie Esther m'a appelée, surexcitée, en me disant « Mais c'est incroyable, t'as vu, elle lit les BD, c'est pas possible, tu la connais, attends. » Et là, elle s'est rendue compte que sa vie avait un écho ailleurs, ouais. Mais qu'elle n'en profitait pas complètement parce qu'elle n'est pas célèbre elle-même. Donc c'est vrai que je commence à mettre ça en scène. Parce que c'est...
Et la maman qui le dit au médecin.
Ouais, c'est vrai.
Là, moment de gêne, quoi, parce que on est presque dans un truc d'intimité.
Mais c'est vrai que comment vivre sa célébrité quand on n'est pas célèbre, c'est rigolo comme thème, parce qu'elle aimerait à la fois dire. C'est moi, je suis un personnage de BD, je suis sûr que vous adorez mes BD, nanana. Puis en même temps, non. C'est-à-dire, les gens n'y croient pas, le médecin n'y a pas
de truc. Elle profite de la tranquillité aussi de ne pas être ni harcelée, ni vannée, ni tensée par des potes ou par des inconnus.
Oui, non. Et par exemple, sur Instagram, quand je poste une photo de la vraie Esther sur mon compte ou d'une fille que je dis que c'est la vraie Esther. Je reçois 25 messages de gens qui disent « J'ai trouvé le profil de la vraie Esther, elle s'appelle machin, elle est dans tel lycée. » Enfin, elle est recherchée. Donc c'est vrai que je veux pas qu'elle soit trouvée, quoi.
Sauf que vous avez fait la photo avec la vraie Esther, parce que quel intérêt de faire une photo avec une fausse Esther en disant « C'est peut-être la vraie. »
Donc
c'est
le forcément... mystère, Nadine, oh, le mystère.
Tu parles.
Brouiller les pistes.
Brouiller les pistes.
Non mais pourquoi l'avoir fait, sans blaguer?
Le mystère, Nagui, je ne vous en ai pas plus. Il faut
pourquoi avoir fait la
photo? On ne la reconnaît pas tellement, hein, si vous regardez bien. Elle ressemble à énormément de jeunes filles. Et on ne sait même pas si c'est son vrai visage. Peut-être qu'il a été modifié par Photoshop. Peut-être que les yeux ont été agrandis.
Peut-être qu'elle a 40 ans, en vrai.
Est-ce que cette est-ce que c'est le rythme de votre travail avec elle? D'abord, est-ce que ça s'est fait par Zoom aussi pendant le confinement? C'est-à-dire, vous avez voulu garder ce tempo ou est-ce que vous avez fait des stocks d'anecdotes et d'histoires quand vous pouviez la rencontrer?
Non, on n'a pas fait par Zoom, mais on a gardé le contact par téléphone ou par SMS, par MMS. Des fois, elle m'envoie des photos. Par exemple, c'est vrai que quand on vieillit, voilà, je me rappelle plus, je vois pas comment les ados s'habillent, par exemple. Elle m'envoie des photos des gens de sa classe et je vois les vêtements, leur posture, leur coiffure.
Il y a beaucoup de commentaires là-dessus, d'ailleurs, sur les fringues aussi. Et sur son rang social. Elle dit beaucoup,
je suis une pauvre chez les Blanches.
Elle rappelle, voilà, elle rappelle beaucoup qu'elle est entourée de riches et qu'elle ne l'est pas.
Oui, oui, c'est très important. Bah, je pense que elle a pas envie d'être considérée pour ce qu'elle n'est pas. En effet, elle veut pas. Elle est dans un super un collège de très bon niveau
que vous avez baptisé Royal pour ne pas qu'on sache quel est ce lycée. Ah non, c'est un lycée, pardon. Ouais.
Ouais. Bah, et c'est vrai qu'elle est entourée de gens. Voilà, il y a des enfants de secrétaires d'État, des enfants d'acteurs, machin et tout. Et donc c'est rigolo. Elle se sent pas très bien au niveau de sa classe sociale vis-à-vis d'eux, mais elle les observe aussi. Elle se juge elle-même par rapport à eux. Elle voit en quoi eux ils sont anormaux et souvent c'est assez rigolo parce que elle est fascinée par le fait que la plupart des garçons de sa classe ont des attitudes de criminels, comme si ils avaient grandi dans des banlieues difficiles. Enfin, ils parlent comme si alors que c'est tous des enfants de méga-bourges. Donc c'est assez
ils font des wesh à tout va pour se donner un genre et
c'est des trafiquants de drogue, quoi.
C'est ça. Et pour appartenir à une génération, vous m'avez toujours pas dit quelle était 50-50 entre la réalité et la fiction que vous rajoutiez. Est-ce qu'il y a une proportion?
Eh bien, il y a une autrice anglaise que j'adore, qui s'appelle Posy Simmonds, qui a fait des super bandes dessinées, que je vous recommande. Et elle, dans chacune de ses bandes dessinées, elle met un roman classique qu'elle adapte. Elle a fait une bande dessinée qui s'appelle Gemma Bovary. Et elle dit tout le temps, dans chacune de mes bandes dessinées, il y a un roman classique enterré dedans. Mm-hmm. Et ben moi, je vais lui piquer ça. Dans chacune d'histoires d'Esther, il y a une histoire vraie d'Esther enterrée dedans, mais on ne sait pas comment elle réapparaît. Enfin, moi, je sais, mais voilà. Mais à chaque fois, c'est quand même vraiment.
Et lorsque. C'est une base. Une base réelle et une digression fictive, ou en tout cas d'humour et de dessin. Est-ce que vous lui demandez l'autorisation de faire une vanne sur tel ou tel truc, de peur de la blesser? Si, par exemple, vous sentez en écrivant sur une boum, par exemple, et que vous faites une vanne sur l'une de ses copines. Vous l'assumez, vous allez au bout, ou des copines sachant qu'elles vont se retrouver en plus dans la bande dessinée, puisque elles sont au courant.
Alors, elle est en général beaucoup plus rentre dedans que moi. C'est moi qui prends trop de précautions. Elle-même, des fois, elle me dit, mais pourquoi tu mets pas son nom, c'est un connard? Vas-y, mets son vrai nom et tout. Je dis, mais non, mais on peut pas, il va me faire un procès. Mais on s'en fout. Enfin, elle est extrêmement, voilà. Alors, je fais quand même très attention. Justement, je veux pas qu'une de ses copines se dise, attends, c'est moi qui dessinais là, ou, voilà, c'est moi qui prends surtout les précautions. Mais...
Et avec des histoires aussi bouleversantes, comme la mort de Kobe Bryant, qui l'a marqué, si elle vous en a parlé, j'imagine. Et ce qui l'a marqué, c'est pas, elle ne connaissait pas le joueur. Ce qui l'a marqué, c'est qu'un papa et sa fille disparaissent dans un crash d'hélicoptère.
Oui, c'est vrai. Et l'actualité souvent vient comme ça dans les cahiers d'Esther. Là, par exemple, j'ai même pas eu besoin de lui en parler parce que c'est elle qui a amené le sujet d'elle-même. Parce que dans sa classe, ils avaient tous été marqués par ça. Et elle, évidemment, voilà, elle s'est projetée avec son papa dans un hélicoptère qui meurt tous les deux. Voilà, ça l'avait vraiment bouleversé, moi je m'en rappelle.
Il a interdit d'hélicoptère, le père.
Oui, c'est ça. De toute façon, il n'avait pas prévu.
Et puis il y a ce rêve du monde d'après qu'on a tous eu lors du premier confinement, en se disant on va forcément réduire notre consommation, on va forcément changer d'éthique, d'hygiène, se rendre compte des choses. Puis on a le sentiment que ça va pas du tout être le cas, que ça va repartir en sucette comme avant. Mais en tout cas, elle a imaginé aussi, elle a rêvé, elle a des visions, si ce n'est politique, en tout cas, elle a des rêves pour notre planète et notre société.
Alors, j'irais peut-être pas jusqu'à dire ça, parce que c'est quand même pas une Greta Thunberg à ce point-là, mais elle se pose quand même beaucoup de questions. Ce qui est rigolo sur le point de vue politique, c'est que, alors elle est comme ça, et ses copines aussi, elles se sentent absolument pas concernées ou représentées par ce qu'on pourrait appeler les mouvements politiques, les groupes, les partis ou les trucs comme ça. Elle sait même pas ce que c'est que les socialistes ou les mélenchonistes ou les républicains. Enfin voilà, elle sait pas du tout. Elle ressent un besoin.
Ce qui est le cas de beaucoup de personnes.
Bah voilà, mais elle se sent connectée avec la politique par rapport à son rapport aux garçons, par exemple. Je sais que ça, c'est son le féminisme, le comportement agressif des gars dans la rue vis-à-vis d'elle. Pourquoi c'est comme ça? Elles en parlent avec ses copines. Voilà, c'est plutôt
les insultes des mecs qui font croire qu'ils attendent le bus pendant qu'elles font la queue pour aller faire les boutiques et qu'elles ont l'impression que c'est eux qui font du lèche-vitrine et qu'elles sont les objets en vitrine.
C'est le détail.
Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que je mesurais pas. pas parce que c'est une jeune fille, elle est assez jolie, elle est en train de grandir, et donc elle, quand elle passe dans l'espace commun, l'espace public, elle provoque des réactions des garçons. Et c'est très impressionnant quand elle me raconte ces histoires-là. Enfin, moi, en tant que gars, personne ne me regarde comme ça dans la rue quand...
Moi, tout le temps.
Et donc, c'est vrai que c'est difficile de l'imaginer quand on ne l'a pas vécu. Et c'est vrai que quand elle me raconte qu'elle va acheter du pain et qu'elle se fait embêter 4 fois, c'est compliqué, quoi. Comment on vit avec ça.
Alors, dans la BD, il y a des planches qui sont vraiment linéaires, où on est dans l'histoire, et puis, tout d'un coup, il y a des planches monumentales.
C'est ça.
Avec
un poster.
Un homme trophée, par exemple, comme Timothée Chalamet, c'est ça?
Qui est un acteur, hein, c'est
ouais,
ça.
Qui est un comédien.
Vous connaissez pas Timothée Chalamet?
Si, tu l'as vu dans...
Moi, j'ai demandé à mes enfants, parce que quand j'ai vu la BD, je ne savais pas qui c'était, et ça a été le même commentaire. Mais tu connais pas papa?
À ne pas confondre avec le chat de Fanny Ruée, qui s'appelle également Timothée Chalamet,
absolument.
Voilà.
Et puis avec Léna Situation, ça c'est très drôle parce que il y a votre voix qu'on entend dans la bande dessinée, il y a celle d'Esther et puis il y a vos commentaires à vous.
Clairement.
Et d'envisager une collaboration entre Riyad Satouf et Léna
Mafouf. C'était une vanne d'elle, hein.
C'est vrai, parce que je pensais que c'était vous.
Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai découvert Léna Situation avec elle. Ouais. Et c'est marrant quand on découvre comme ça. Quelqu'un qui est une référence ou une influenceuse pour toute une génération, on se dit mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler. On regarde le chiffre des vidéos et on voit 296 millions. On se dit mais c'est où j'étais pendant que. Voilà.
Et puis la politique, en tout cas peut-être pas la politique, mais les valeurs essentielles de notre vie sur cette planète avec George Floyd, avec le Black Lives Matter et avec son regard sur la police et ça finit quand même par une vanne. C'est-à-dire qu'elle dit c'est vrai que moi aussi j'ai peur de la police. Puis finalement, la police passe, il se passe rien de particulier. Et puis elle imagine une police uniquement de femmes.
Ouais, la police des filles, ouais.
Non, mais voilà, comme tous les jeunes, je pense qu'elle...
Là, c'est votre imagination ou c'est la sienne?
Non, en fait...
La police de femmes, c'est elle aussi?
Non, souvent, elle projette comme ça, que pour elle, l'amélioration de tout ce qu'il y a sur Terre, c'est-à-dire, par exemple, les hommes politiques ou l'ordre, alors la police, mais aussi l'armée, etc. Pour elle, pour que ce soit mieux, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes partout. Je pense qu'en fait, elle a raison. Moi, je suis d'accord avec elle. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, elle le met en scène enfin, comme ça,
pour les prochaines, de femmes pour les prochaines élections politiques, si c'est une femme, ça ne sera pas spécialement une bonne nouvelle. Les cahiers d'Esther, histoire de mes 15 ans, Riyad Satouf aux éditions Alary. Et voici Monsieur Jérémy Grenil. Jingle. Merci. T'as un problème, Jérémy. Ah, t'étais pas prêt, c'est ça le truc. Ah, ok. En fait, t'étais pas prêt parce que c'est dans mon casque qu'on a dit vas-y.
Ah oui. Ah bah alors vas-y.
T'as pas eu l'ordre avant.
Ambiance, c'est parti. Et vous avez vu, Macron se prend une claque. 3 jours après, on enlève les masques à l'extérieur, comme si ça avait fait un électrochoc. Bon, alors aujourd'hui, je vais faire une chanson sur les klaxons. Tu vas me dire, rien à voir avec mon intro sur la claque. Voici la klaxon. Bon, c'est la fin de la saison.
Ouais.
Alors pour rappel, on est autorisé à klaxonner uniquement 2 jours hors agglomération pour avertir d'un danger. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on klaxonne pour tout sauf pour ça. C'est parti avec Jérém de Palmas. Je m'en sers pour autre chose.
Yeah.
Pour te dire au revoir quand je te dépose ou quand je suis trop pressé. Le feu passe au vert, t'as pas démarré. Ça avance mal, mais je vais tout régler. D'un petit tut-tut avance trop de balles. Je klaxonne sur la route, la nuit, la journée. On a gagné au foot, je dois l'annoncer. Je klaxonne sur la route, ma sœur s'est mariée. Normalement c'est juste pour dire, oh, il y a un danger. Ouh, 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 ouh. Vacances direction le sud.
Yeah.
Quand ça bouchonne, j'exprime ma lassitude. Y'a 1000 personnes devant moi. Si je klaxonne, c'est sûr qu'on avancera. S'il y a un animal au milieu de la chaussée, un camion poubelle qui travaille, je klaxonne sur la route comme un acharné. Quand je vois une jupe courte ou un décolleté, je klaxonne sur la route pour te saluer. Normalement c'est juste pour dire oh, il y a un danger. Ouh, 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 ouh. Tut, tut. Et merde d'un tracteur. Ouh, ouh, vroom, vroom, vroom. Tut, 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 tut. C'est parce que le pont est long. Tut, 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 le tracteur. Bah mets-toi sur le côté. Et je klaxonne sur la route quand je viens te chercher. J'ai un téléphone, j'aurais pu t'appeler. Je klaxonne sur la route pour te remercier. De petits coups brefs pour te dire au revoir et merci. T'as la version courte, plutôt enjouée. Si j'appuie longtemps, c'est que tu m'as gonflé. Je klaxonne sur la route avant de t'insulter. Et parfois c'est pour te dire que je te laisse passer. Oh, mais mais souvent quand je klaxonne sur la route, c'est que je suis un kéké. Tut.
Oh, le tut de fin.
Tut, tut, tut. Et Jérémy, on te retrouve demain à la Comédie de Toulouse. Samedi, tu seras au Spotlight de Lille et le 22 octobre au Sébastopol.
Ce qui est bien, c'est que l'idée du klaxon est venue de la claque. C'est incroyable. Et tu as provoqué dans ce plateau, dans ce studio, la claque aussi.
Oh, merci, mon équipe.
Tu nous as filé une claque. Les cahiers d'Estelle, Riyad Sattouf. Alors, il y a
Esther.
J'ai dit Estelle, c'est pas vrai. D'Esther, avec aussi des clashs, avec papa, avec des incompréhensions, avec maman aussi. Elle gueule, elle s'engueule, elle se prend la tête avec ses parents de temps en temps et elle vous le dit.
Oui.
Alors au début, le point de départ, c'est que vous êtes pote avec le papa.
Oui, bien sûr. Alors heureusement que ça arrive, parce que c'est vrai que des
ça
fois,
met du piment.
Ça met un peu de piment, parce que je me dis, mais quand même, c'est une ado, c'est faut quand même qu'elle. Et donc c'est vrai que souvent ils sont pas d'accord, notamment sur la politique ou parfois aussi sur les comportements des téléphones portables, les réseaux sociaux, le fait de. Quand elle voulait voir son petit copain, son père voulait pas. Enfin voilà, il y a des.
Moi j'étais surpris que papa et maman discutent assez brièvement de la possibilité d'avoir de l'alcool ou pas une soirée.
Alors j'ai découvert que c'était assez fréquent.
Que
les parents disent oui sous contrôle. Bah est-ce qu'il vaut mieux interdire complètement ou contrôler un petit peu? C'est pour avoir l'air cool, quelques bières. Pas de whisky. C'est vrai que dans la fête quand elle a organisé sa fête, son père est venu avec une petite bouteille de champagne, mais il y avait une bouteille de champagne pour 30. Donc ils avaient 1,5 cm chacun, mais ils étaient contents.
Il est devenu super cool. En revanche, c'est rien comparé aux relations avec le frère aîné. Ouais. Parce que là, on est vraiment là dans le sujet du complotisme. C'est lui qui annonce en premier qu'il va y avoir un virus terrible
qui vient de Chine.
Et personne ne le croit. Le père est complètement se dire mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'il a dans la tête?
Arrête de lire ses bêtises sur Internet.
Et en fait, l'actualité lui donne raison.
Oui, c'est vrai que son frère est très intéressé par toute l'actualité parallèle. Alors, est-ce que je dis qu'il est complotiste? Parce qu'il s'intéresse aux thèses complotistes, mais il n'y croit pas forcément. Mais par exemple, c'est vrai que quand il y a eu le docteur Raoult, il avait envie d'habiter à Marseille, par exemple. Il a emmerdé sa famille tout le temps.
Il disait, attends, on devrait prendre l'hydroxychloroquine.
Mais bon, en même temps, tous les Français pensaient ça. Enfin, beaucoup de Français pensaient ça aussi. Donc,
Moi aujourd'hui.
Mais c'est vrai qu'il a souvent des fulgurances. Il voit des choses. Ça a été un des premiers, en effet, à parler de la pandémie.
Avec un père complètement flippé. Qui est un des premiers à trouver sur Internet des masques, du gel, à un moment où on n'en trouve plus.
Parce qu'il est hypochondriaque, parce qu'il a...
Oui, alors dans la santé pour lui est un problème. J'ai mis ça en scène depuis plusieurs volumes, parce qu'ils n'ont jamais été en rupture de gel hydroalcoolique ou de masque. Ils en avaient en avance.
Et il portait déjà des masques.
Il portait déjà des masques dans le troisième tome. Ouais.
Mais peut-être que c'est aussi l'album où il y a le plus de mise en abîme, où il y a l'album dans l'album, où elle parle le plus d'ailleurs de son image, sa notoriété, où il y a des flashbacks, où on revient sur des albums qui ont été faits précédemment, c'est-à-dire qu'elle intègre totalement maintenant les cahiers des serres dans sa propre vie.
Bah, il faut que je le mette en scène, c'est vrai, voilà, c'est un... il y a eu un dessin animé des Cahiers d'Esther, donc il y a plein de ses copines qui lui en ont parlé, mais sans savoir que c'était elle. Elle a très souvent des gens qui lui offrent les BD sans savoir quelle est la vraie Esther.
Et sur donc, un film.
Et sur un peut-être un jour, mais voilà, c'est vrai que la célébrité de cette BD est devenue de plus en plus exponentielle, et donc je trouve ça rigolo d'essayer de la mettre en scène dans la vraie BD.
Et la musique est présente, notamment.
Edith Piaf.
Il y a Tanguy en train de convulser quelque part dans les locaux.
En tout cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est que Aya Nakamura écrit ses paroles et que ses paroles font partie d'un verbe, d'un discours quotidien chez les ados. C'est-à-dire qu'elles s'entendent parler en Dja, en Pookie, en Jolie Nana.
Oui, oui, oui. Puis Aya Nakamura, c'est vrai que c'est une vraie autrice, quoi. Ouais. Elle fait tout. Donc on aime ou pas, elle laisse pas indifférent. Puis elle a vraiment une proposition. Enfin, je sais pas comment. C'est pas une construction marketing ou une. C'est une vraie artiste. Quoi. Donc c'est vrai que quand Esther en parle, elle est assez fascinée parce qu'elle comprend pas ce qu'elle dit. Bon, comme beaucoup de gens, mais elle adore quand même. Il y a ce réflexe qui est que je vais essayer de comprendre. Donc elle lit les textes, elle se renseigne sur le sens des mots.
Il y a un lexique, quoi.
Il y a un lexique, quoi.
Et Angèle, donc, qui avait tweeté ou qui avait Instagrammé, en tout cas, une planche des Cahiers d'Esther, ce qui a dû être le climax d'Esther dans sa vie, d'être reconnue, entre guillemets, par Angèle. Est-ce qu'à l'occasion, vous essaierez d'organiser une rencontre, votre notoriété le permet, en tout cas, entre Angèle et Esther?
Mais pourquoi pas? Et c'est vrai que quand je relisais le premier...
C'est un beau cadeau, quand même, parce que ça fait quand même quelques tomes là, que vous bossez sur Esther.
Non, c'est vrai. Mais quand je relisais le premier tome des Cahiers d'Esther, Angèle n'avait pas percé comme elle avait percé. Et il y avait une histoire où Esther s'imaginait plus tard chanteuse blonde. Et c'est drôle parce que je l'avais dessinée et j'ai revu ça et c'est Angèle. Angèle est devenue, enfin, est une projection de ce qu'elle rêvait d'être
c'est ça.
Quand
vous
elle
êtes
était...
en train de dire qu'Angèle, c'est vous.
La vie, c'est lui. Les Cahiers d'Esther, la musique dans la vie de Riyad Satouf, avant d'accueillir Marie-Rose Moreau, qui est pédopsychiatre et psychanalyste, et qui dirige la maison de Solène, maison des adolescents de Cochin, qui enseigne la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de la Sorbonne. On va en parler avec elle, notamment des ouvrages qu'elle a publiés aussi autour de l'adolescence. Donc la musique dans la vie de Riyad Satouf, en 2003...
La nuit je m'en vais, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Sans chercher à faire des clivages ou à clasher les fans de Bachung avec les fans d'Aya Nakamura, dans les deux cas, oui. Des personnes se sont posées la question de savoir mais qu'est-ce qu'il veut dire, quelles sont ces images. Non mais c'est vrai, ouais, dans les deux cas. Et Bachung, ses paroles sont devenues même écrites et réinterprétées, parce qu'on sait à quel point, que ce soit avec Bergman ou Fauque ou Gaëtan Roussel, il y mettait sa patte aussi dans l'interprétation, sont devenus des titres de romans, des titres de films, sont venus des phrases incontournable maintenant de la culture française. Alors justement, chez Bachung, qu'est-ce que vous aimez? La musique, les textes?
Ah oui, c'est ça. Le mystère qu'il y a dans les textes. Par exemple, j'avais eu une prise de conscience quand j'étais plus jeune, quand j'avais compris le sens de sa chanson « Ma petite entreprise ».« Ma petite entreprise ».
Maintenant, vous savez ce que c'est.
Voilà, mais il parlait de son érection, mais moi, je pensais que c'était une entreprise. Enfin, et c'est justement cette recherche quand on comprend pas un texte, qu'on essaye de savoir ce qu'il veut dire, c'est un truc qui est universel, et en effet, il y a un lien avec Aya Nakamura aujourd'hui, c'est pareil.
J'ai compris un truc ce matin.
Il faut des clés, voilà. T'as compris pour ma petite entreprise, Daniel? On est en 2003, Riyad, et c'est une année aussi d'une première fois, une première fois dont vous vous souvenez très souvent. La première fois que vous signez un contrat, c'était à l'époque chez Dargaud.
On se souvient de toutes ces premières fois.
Ouais, mais vous dites aussi dans les interviews qu'à chaque fois que vous signez un contrat, à chaque fois qu'il y a une première fois comme ça, cette journée vous revient.
Oui, mais alors je pense que beaucoup d'auteurs de bande dessinée ou même de musiciens ou d'artistes ont ce souvenir du jour où ils ont pu envisager qu'ils allaient vivre de leur passion.
Ouais. Voilà.
Et ça, c'est vrai que ce jour-là, vraiment, j'ai eu le sentiment de rencontrer quelque chose. Enfin, on rêve tellement fortement. Moi, je sais que j'ai pendant des années, j'ai rêvé de voir mes dessins imprimés, de faire des livres, sans en avoir la possibilité, sans intéresser personne.
Vous faisiez quoi justement pour gagner votre vie?
Bon, j'essayais de faire des illustrations, je plaçais des petits dessins à gauche à droite, ouais. Mais un vrai livre en tant qu'auteur, c'était très compliqué parce qu'il faut que un éditeur vous fasse confiance, faut que vous soyez crédible. Donc ce qui n'était pas vraiment mon cas, j'avais du mal à voilà. Et le jour où c'est arrivé, c'est vrai qu'on se dit mais j'ai rêvé tellement de ça et c'est réel. Donc,
ouais. Ça se rapproche un peu de ce que nous disait Sandrine Kiberlin quand elle était sortie justement
du conservatoire. Ouais. Là, c'est Les Jolis Pieds de Florence, premier tome de la série Les Pauvres Aventures de Jérémy, qui vous vaut le prix René Goscinny. C'est quand même pas rien, tout un coup, comme reconnaissance dans ce milieu. Et puis, vous publiez aussi le manuel du puceau, où vous racontez les premiers émois d'un collégien. Vous étiez déjà là, entre la sexualité et les jeunes.
Ben oui, quand j'ai commencé, alors j'étais très très proche encore de mon adolescence parce que c'est vrai que j'ai commencé très jeune à faire des bandes dessinées. Je devais avoir une vingtaine d'années à cette époque-là, donc 5 ans avant, j'avais 15 ans en fait. C'était comme hier, quoi. C'est ces moments où on se rend bien compte qu'on va pas devenir naturellement Sylvester Stallone, donc que personne ne vous remarque quand vous marchez. Enfin, il y a des prises de conscience comme ça qui s'effectuent. Et quand j'ai commencé à faire mes livres,
c'est vrai qui brise des rêves.
Il y a les rêves qui s'effondrent, puis d'autres qui apparaissent à l'horizon. Donc c'est vrai que mes premières bandes dessinées étaient très centrées sur ces thèmes du mec qui n'y arrive pas, ouais. Qui galère, etc. Enfin,
qui ne sera pas celui qu'il rêve, mais qui est lui. Après, il faut s'accepter, être bien dans sa peau. Et
ça peut prendre du temps.
Ouais. J'imagine.
Ça peut très bien ne jamais arriver. D'ailleurs, heureusement que Marie-Rose Morella va nous le raconter. Parce que c'est vrai que s'accepter, voilà, il y a des gens qui s'acceptent très vite.
C'est du boulot, oui.
C'est vraiment compliqué.
C'est du boulot. Et lorsque, en plus, les parents n'aident pas à ce que l'on s'accepte et qu'on a un sentiment de rejet au sein même de sa propre famille et de mal-être, ça donne des situations très compliquées. 2005, vous écoutiez OS. Elle évoque quoi cette musique pour vous ?
D'abord, l'attitude incroyablement frimeur des deux frères, Noël Gallagher et Liam Gallagher.
Qui chantent les mains dans le dos.
Qui se bastonnent.
Voilà, qui se bastonnent et qui se tiennent vraiment. Je sais que je les trouvais incroyablement antipathiques quand j'étais. On a l'impression que c'est des frimeurs. C'est les mecs dans la classe qui vous emmerdent et qui vous pètent la gueule à la récré. Mais ils font de la super musique.
C'est-à-dire, il y a le côté Manchester aussi. on vient d'une zone ouvrière plutôt grise, sans soleil et noire.
L'Angleterre.
Et on est les meilleurs au monde. C'est-à-dire que d'un coup, il y a cette espèce de revendication ou d'auto-conviction avec
Morgue.
On est les meilleurs et on vous emmerde.
Oui, c'est vrai. C'est cette attitude-là, justement, c'est une attitude, je trouve, qui est très adolescente. Enfin, il y a beaucoup d'ados qui ont ce genre de morgue un peu.
C'est l'image qu'on a du rock anglais aussi.
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de... Les Beatles, c'était un petit peu comme ça. Ou les Zeppelin, ou des espèces d'attitudes. Ouais. Alors qu'ils ont des physiques un petit peu moyens. Enfin, c'est ça qui est assez émouvant.
Jagger était un canon de la beauté.
Jagger,
quand même,
il est
quand
très,
il
très
était
moche.
Gamin.
Non, gamin.
Il est difforme.
Il était super beau.
Mais juste,
il en devient beau, mais franchement, objectivement, il n'était pas quand même.
Non,
gamin. Jeune, il était. Si, il avait une bouche extrêmement pulpeuse.
Mais ça, c'est autre chose. Mais
donc, quand ils regardent les enfants, ils trouvent leur bouche plutôt bizarre.
Ça, c'est vrai. Ça, je confirme.
Je parle pas d'enfant. Je confirme, oui, pour ta fille, oui. Mais en l'occurrence, mais Jagger était beau gosse. Vous êtes fou, quoi.
Revoyons des photos et je pense qu'il y a dialogue. En tout cas, on est en 2005, Riyad Satouf. Et vous racontez les premiers strings qui dépassent, les intercours, les interro-surprises, les gamins un petit peu cons. On est dans Retour au collège. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de placer cet album-là dans les beaux quartiers?
Pour une raison simple, quand j'avais commencé à faire des bandes dessinées, notamment Manuel du Puceau, j'avais eu des problèmes avec la justice, en fait. Il y avait des associations... traditionnaliste qui avait porté plainte contre le livre pour comment dire
incitation à la débauche.
Non, pas du tout, pour comment dire grossièreté et représentation négative de l'image du père, etc. À l'époque, ça existait encore. Et je m'étais dit, mais je vais aller en fait dans un collège où sont probablement les enfants de ces gens de l'association pour voir comment ils sont.
Ah, c'est bien.
Et donc voilà, j'avais fait un petit reportage dans un collège UP de Paris. Et c'est vrai que bah voilà, j'avais retranscrit ce que j'avais vu et les comportements. Et c'est marrant de voir qu'Esther aujourd'hui est dans un collège comme ça.
Oui, c'est ça qu'elle arrive. Bon, alors on se fait passer une photo. Alors, on peut expliquer parce que sinon.
C'est Mick Jagger qui a 5 ans et qui est nu. Il n'y a que Nagui qui a ses clichés dans son téléphone.
Mais il a une belle bouche. Et non, mais si on passait à l'année 2010, qu'est-ce que t'en penses?
Allez,
2010, allez, écoutez.
2010.
Pauline Croze. Pauline Croze. C'est beau. De regarder dans le fond des yeux.
C'est de la soie.
Celui qui te défie d'être heureux.
Belle bente.
T'es beau. T'es beau comme un gris silencieux. Vaillant comme un métal précieux. Qui se bat pour guérir de ses bleus.
C'est... Et la Pauline Croze correspond à quoi dans votre mémoire musicale ou votre madeleine musicale?
En fait, je m'étais fait une compilation à un moment de toutes les chansons un peu tristes et que j'écoutais le soir, la nuit, quand je travaillais. Et donc, à chaque fois, je tombais sur cette chanson. J'adore Pauline Croze. Même physiquement, c'est un personnage, quoi. Elle a quelque chose d'assez unique. Elle écrit des textes super. C'est une super musicienne. Non, je l'aime beaucoup.
Elle a un petit côté Esther aussi.
Oui, c'est vrai. Ouais. Un peu filiforme. Oui. Notamment quand elle a commencé, elle avait vraiment un... comment on appelle ça, la frange, etc.
Oui, et puis sur scène, elle avait un truc comme ça très tendre, quasiment empêché, et en même temps, tout d'un coup, elle avait une beauté qui irradiait de tout ça. On est en 2010 et c'est vraiment une année de merde, Riyad. Parce que 2010, pardon, mais on a un César du premier film pour Les Beaux Gosses, et on a le Fauve d'Or pour le meilleur album au Festival d'Angoulême, pour le tome 3, Les Aventures de l'homme qu'on aimera toute notre vie, Pascal Brutal, intitulé Plus fort que les forts. Qu'est-ce que vous voulez dire sur cette année 2010 après tout ça? Qu'on se dit comment va être 2011.
Absolument bien.
Ça va être compliqué.
Non, c'est vrai que c'était une super année, en effet, avec beaucoup de... Mais j'étais en train de préparer mon deuxième film, Jackie Rome des filles, en ne sachant pas que ça allait être un énorme four. Donc comme quoi, voilà, c'est un...
Mais c'est pas... Moi, je vous interdis de dire que c'est un four, en fait.
Non, mais four dans le sens, c'est un échec.
Ouais, pardon. Mais c'est pas un échec, en fait, parce que l'art, toute œuvre, il faut laisser du temps à une œuvre. Et cette œuvre-là, aujourd'hui... Mais on peut pas dire que c'est un four. On pouvait pas dire que c'était un four quand c'est sorti. Ah, moi, je suis une militante de Jackie au Royaume des filles. C'est quand même un de mes films préférés au monde. Vraiment. Donc on peut pas dire ça.
Vous avez compris?
Refaites votre réponse.
Non, mais alors... ce que je veux dire, voilà, c'était une année de grand succès. Voilà. Et c'est aussi anxiogène parce qu'on se dit, j'ai vraiment beaucoup de succès.
Qu'est-ce qui va se passer?
Suis-je en bas d'une courbe ou en haut d'une courbe? Ouais. Et donc évidemment, là, j'étais en haut. Donc après, voilà. Mais c'est un cycle. Donc il faut jamais se...
Vous êtes inquiet de l'avenir? Vous avez, même encore aujourd'hui, vous avez des doutes, des angoisses de création?
Oui, non, surtout moi quand je lasse mes chaussures, par exemple, et que je me rends compte que j'ai du mal à atteindre mon pied.
Ah, ça s'appelle le ventre.
J'ai 43 ans et je me dis, oh là là.
Ça s'appelle le ventre. L'obstacle qui est entre vous et les pieds s'appelle le ventre.
Comme Nagui, prenez du personnel.
ou ne faites pas vous lasser.
Vous êtes un peu hypochondriaque ou pas, etc.?
Non, complètement. Ouais. Ouais. Alors, hypochondriaque dans le sens. Pas complètement.
Parce que vous êtes pâle.
Vous saignez d'une oreille.
C'est quand on a peur d'être gravement malade. Ouais. Mais c'est vrai que d'assister à la modification du corps avec le temps, on se dit, ah ouais, non, en fait, vraiment là...
La vieillesse est un naufrage.
Vraiment là, je vais pas devenir...
La vieillesse, naufrage. Elle est évoquée par Esther, justement, dans l'histoire de ses 15 ans. Est-ce que elle vous permet de rester jeune, Esther? Parce que quand je vois les lunettes que vous mettez à côté de la vraie Esther, je me dis qu'il y a un vrai problème de choix esthétique à Elton John, un peu.
Disons que comme l'essentiel de mes journées passe sur mes bandes dessinées, c'est ce qui me passionne, etc. Je suis obligé d'y trouver aussi un intérêt personnel autre que le fait de faire des bandes dessinées. Et donc c'est vrai que m'intéresser au monde des jeunes, c'est aussi une manière de pas vieillir, peut-être.
Rester en mouvement.
De rester en mouvement, de pas. Parce qu'évidemment, plus on vieillit, plus on se dit, bah, elle est jeune, mais c'est n'importe quoi, ils vont détruire le monde. Enfin, c'est, mais voilà, c'est en s'y intéressant, on essaye de, on est plus magnanime. Enfin,
et voilà. Ben voilà, on va continuer de s'intéresser, en effet, aux ados avec Marie-Rose Moreau. Bonjour, Marie-Rose. Je vous ai présenté tout à l'heure en tant que pédopsie et psychanalyste. Et vous dirigez la maison de Solène, maison des adolescents de Cochin. Est-ce que le confinement que nous avons, ou les confinements que nous avons vécus, ont été vécus d'une manière différente par les ados? Et si oui, laquelle?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors bien sûr, hein, le confinement a touché de manière, je pense, l'âge qui a été le plus touché. Non pas seulement par l'épidémie, mais par le confinement, par les mesures qui nous ont obligés à rester à la maison, à ne pas se toucher, à ne pas se croiser, etc. C'est les ados qui ont payé le prix le plus cher, parce que c'est, d'une certaine façon, c'est le mouvement inverse de l'adolescence, quoi, ce confinement. Alors qu'on est en train de sortir, d'avoir des amis, de trouver d'autres valeurs. J'assistais à votre discussion avec Riyad, là. Je trouvais que c'était une belle conversation d'adolescent, quoi, hein, avec l'avenir, avec de l'humour et tout ça. Mais sauf que pendant le confinement, tout ça, c'est tous ces mouvements vers l'extérieur, vers la pluralité, vers demain. Parce qu'effectivement, les jeunes, c'est ceux de demain, c'est les adultes, c'est ceux qui feront le monde de demain et qui d'ailleurs commencent déjà à le faire. Mais ces mesures, elles les ont empêchées.
Marie-Rose, on va continuer de parler. Je vous encouragerai simplement à parler un tout petit peu moins près du téléphone pour qu'on ait votre plus belle voix possible sur l'antenne. Est-ce que les principaux troubles que les ados ont pu ressentir étaient justement l'isolement, le manque de vie sociale, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas finalement pris toute cette place de socialisation pendant le confinement?
Eh bien, les réseaux sociaux ont été très importants, et toute la technologie pour se voir quand même,
ouais,
pour faire des choses à distance. Tout ça a beaucoup aidé les jeunes gens, mais justement, ça a montré aussi l'importance du corps à corps, de l'expression de la tendresse partagée, de la proximité nécessaire, des moments aussi où on n'est plus sous le regard des adultes. C'est terrible, ça, hein. C'était une régression terrible pour les adolescents. Ils pouvaient se cacher dans leur chambre, mais c'est même là, ils étaient sous le contrôle des adultes. Donc ça n'a pas été suffisant. Alors ça s'est exprimé au début essentiellement par des troubles anxieux, c'est-à-dire que on avait peur, on avait mal dans le corps, on était inquiet pour des tas de choses, et puis progressivement ça a touché quelque chose de beaucoup plus profond. C'est d'ailleurs en rapport avec l'avenir et avec le devenir, et on a vu apparaître beaucoup de choses comme des automutilations, donc on s'attaque soi-même ou on perd l'envie de vivre. Donc c'est vraiment sérieux, hein. Et j'allais dire, le pire, c'est que c'est pas parce qu'on enlève là tout de suite les mesures de confinement que tout ça va rentrer tout de suite dans l'ordre, quoi, parce que il y a besoin de temps pour reconstruire cette vie dont les adolescents ont besoin.
Et puis il faut pas oublier, puisque vous avez signé un livre chez Bayard qui s'appelle Abus sexuels, la parole est aux enfants, il ne faut pas oublier que le confinement mettait ou laissait certains enfants ou adolescents en prison avec leur agresseur, c'est-à-dire qu'il y a les violences aussi familiales. On sait que les violences conjugales ont été également en croissance pendant cette période, et que des enfants se retrouvaient là aussi sous les coups d'un père. C'est plus souvent le père d'ailleurs, même si quelques mamans aussi sont excessives, mais sous les coups d'un père, sans rien pouvoir dire ou faire, quoi.
Mais oui, ça a été démontré, hein, vraiment, malheureusement, c'est que toutes ces violences intrafamiliales ont énormément augmenté dès le début du premier confinement, et ça a continué. Et effectivement, les conséquences pour les femmes, dans les couples, et les conséquences pour les enfants. Et le problème aussi, c'est que quand il y avait une difficulté à l'intérieur de la famille, on ne pouvait pas trouver d'aide suffisante à l'extérieur. Mmh. Donc les violences de tout type, y compris les violences sexuelles, ont augmenté, et ça, ça c'est tragique. Mais heureusement, enfin, ce qui montre d'ailleurs que plus la famille était vulnérable, plus le prix était lourd pour ses enfants et ses adolescents. Mais pour tout le monde, il y a eu une contrainte qui a pesé sur les adolescents. Et certains, en ce moment, ont du mal à sortir, à ressortir.
Et puis d'autres ont du mal à rentrer aussi quand ils font la fête aux Invalides à Paris.
Là, ça, c'est un moindre mal, ça.
Voilà, exactement. Merci Marie-Rose Moreau d'être venue, puis merci pour ce que vous faites à la Maison de Solène, Maison des Adolescents de Cochin. Bonne journée Marie-Rose, au revoir.
Merci, et ravie d'avoir retrouvé Esther.
<C'est> Tanguy Passureau, de quoi allez-vous parler aujourd'hui?
Je veux parler d'Harrison Ford, il est âgé, il devrait regarder France 3 en comptant ses points à retraite, mais le malheureux a signé pour un cinquième Indiana Jones et ils vont le rajeunir numériquement.
La bande originale avec une blague de Moulin, Morgane,
Camille, non,
Jérémy,
bonjour,
Chadville, Tanguy, Passureau, Daniel, bon, notre invité, Riyad Satou.
Bravo monsieur.
Avec les cahiers d'Esther, on a tous envie d'être copains et copines avec elle, hein, parce qu'elle est rigolote, elle est comment dirais-je, elle est bien dans sa tête, elle est bien dans sa peau, ouais. Elle a des valeurs et je sais pas, voilà, on est déjà copains et copines avec elle finalement, on la connaît tellement bien, c'est vrai.
C'est le projet.
Depuis ces 10 ans, on la suit.
Oui, c'est ça. Mais alors, c'est vrai que je me demandais quel ado elle allait devenir, etc. Parce que je l'aurais suivi. Enfin, si elle avait,
il y avait un risque, ouais.
Si elle était devenue, je sais pas, militante du Front National ou je sais pas quoi, je l'aurais quand même suivi. J'aurais quand même raconté. Mais il se trouve qu'elle c'est devenu quelqu'un de bien. Enfin, non mais dans les faits, c'est qu'elle devient quelqu'un d'humain. Enfin, je sais pas de. Alors que quand on a commencé, c'était une vraie chippie. C'est-à-dire, elle était méchante des fois avec des gens.
C'était au plaisir, pardon.
Hein, bah, c'est ce que j'adorais. Mais ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'elle s'est assagie un petit peu avec le temps et ça, elle
vous
devient.
Vous n'avez pas peur qu'elle devienne chiante?
Hein?
Vous n'avez pas peur qu'elle devienne chiante?
Mais je mettrai en scène cette chiante.
La chiantitude,
j'en ferai des pages. Ça non. Ne me fait pas peur.
Elle risque pas parce que justement, elle est rigolote, parce qu'elle est fidèle, parce qu'elle est copine, parce qu'elle a. On a l'impression qu'elle a, en tout cas, l'œil qui pétille de toutes les situations. Sa vision de la pandémie, sa vision des masques, sa vision de la vieillesse aussi. Il y a une planche qui est extrêmement émouvante sur la vieillesse.
Ouais. Ah oui, avec la petite grand-mère qui avait 103 ans, qui vivait toute seule. Non, mais c'est vrai. Alors après, c'est difficile d'imaginer, de se dire comment ça va être dans le futur. Peut-être aussi qu'Esther est comme un volcan très calme et que ça va exploser à un moment.
Et qu'elle va faire une autre crise plus tard, c'est ça ?
Plus tard,
non,
voilà.
Mais entre l'arrivée dans ce lycée un peu d'élite... Que vous laissez entrevoir à la fin.
Royal.
Les futures histoires d'amour aussi, va y avoir matière, je pense.
Oui, c'est vrai que voilà, rien que déjà là, c'est vrai que je continue à faire cette bande dessinée toutes les semaines. Donc maintenant, elle a encore grandi, elle vit des trucs. Voilà, en effet, de plus en plus, elle a de plus en plus de contacts, de chocs avec la gente masculine. Et c'est vraiment très intéressant à observer, parce que en tant que garçon, j'imaginais pas ça.
Elle passe le bac, donc on a un an d'écart à chaque fois.
Non, elle a 16 ans là, donc elle va rentrer en première.
D'accord. Donc l'année prochaine.
Elle va rentrer en première.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Il y a un an d'écart.
Oui, c'est ça. Ouais. J'étais en train de me poser la question. Vous interviewez Esther pour raconter une histoire inspirée d'une histoire vraie. Et dans ces histoires qu'elle vous raconte, il y a une autre histoire, une histoire vraie, yokai, c'est ça, d'un personnage japonais, de la mythologie japonaise en tout cas, qui parle de pandémie.
Oui, tout à fait. C'est les Japonais, ils ont tout un univers mythologique comme ça, avec des petites créatures surnaturelles qui vivent dans la nature. J'adore la mythologie japonaise, c'est génial. Et il y en a une, c'est un yokai qui s'appelle Amabie, qui est une petite créature qui se montre sur une plage comme ça.
Qui brille la nuit.
Qui brille la nuit et qui aurait été vue donc au début du XXe siècle sur une plage et qui a dit « Ceux qui voient mon image seront sauvés de la pandémie. Seront sauvés des maladies et des virus.
Et d'une épidémie. »
Donc au Japon, ils s'échangent tous des images de cette créature.
Ça marche pas des masses.
Bah, justement, si, ah. Parce qu'au Japon, ils n'ont pas tellement de...
Oui, je crois, c'est vrai. Prendre.
Alors, ils ferment tout le pays parce qu'ils ont 300 voilà. cas, mais ça va...
C'est pas ils gèrent mieux. Ils gèrent mieux. Voilà. Les cahiers d'Esther, histoire de mes 15 ans chez Alary Édition, du très bon, comme d'habitude. Que dire, si ce n'est que c'est drôle, c'est intelligent, que ça fait du bien. S'il y a un reproche à faire, c'est que ça se lit tellement rapidement. Ouais. C'est-à-dire que en une journée, on l'a lu, c'est
Vous
frustrant.
Avez qu'à être un peu con et lire moins vite. Hein. On a... Non, alors, pourtant, il y a une des propositions qui a été acceptée.
J'espérais que, étant donné, parce qu'il fait quand même des bulles où c'est écrit relativement petit, je me disais qu'avec l'âge, je mettrais plus de temps à lire. Eh ben, pas de bol.
Moi, pour Esther, il me faut 28 jours.
Hein. On y arrive quand même. Voici Tanguy Passiro.
Bientôt, car le temps passe très vite, j'aurai 78 ans. Ah, Michel voilà. Drucker, j'ai calculé, en aura alors 109. Il arrivera vivement dimanche sur une planche à roulettes tirée par 15 teckels et demandera à Chris, ex-Christine and the Queens, futur cr, de parler de ses nouvelles chansons et pas de nom genré avant de lâcher dans un dernier souffle. Merci cr. Et tout de suite, on accueille N. Pokora, le fils de M. Pokora, pour son disque de reprise de l'album de reprise de Claude François par son père. Oui, le temps passe vite. Tempus fugit, comme disaient les latins. Putain, il est déjà midi et j'ai pas fait chauffer l'eau des poireaux, comme disait ma tante. Bon, alors pour mes 78 ans, j'ai déjà un projet de vie en tête qui est ne rien foutre. Je me vois dans un transat en train de pourrir au soleil. Je suivrai de très loin les infos. Le décès d'Anne Hidalgo à 92 ans qui aura souhaité se faire enterrer entre un espace végétalisé en veille des troncs de chiens et une terrasse éphémère faite avec des palettes de zadistes, ça me touchera à peine. La montée des océans due à la fonte des glaces, je m'en foutrais. Je me dirais juste que c'était une bonne idée en 2024 d'avoir investi dans ce petit pavillon à Évreux qui du coup se retrouve sur la plage. Aya Nakamura, 57 ans, passera en live sur le front de mer lors de sa tournée, le Jaja Trauma La Manche Tour. Ma seule préoccupation, comme tous les vieux, ce sera ce qu'on mange. Toutes les deux heures, je ferai venir mon livreur Deliveroo, ce jeune Suisse qui aura quitté son pays à cause de la guerre civile, débuté le jour où quelqu'un aura jeté un mégot de cigarette par terre avant qu'un autre lui en fasse le reproche. À 78 ans, le monde du travail, ce sera fini. Je lirai les mémoires de Leïla Kadour Boudedi, intitulées « Allez, ok, j'avoue, j'avais toutes les réponses au blind test » avant de sombrer dans un sommeil délicieux. Mais d'autres gens qui, eux, ont du respect pour la valeur travail, refusent de s'arrêter. Jean-Yves Le Drian, le menhir mou, est toujours en poste à 74 piges. Alain Duhamel, 81 ans, prolonge sur BFM TV sa tentative de réhabiliter la veste moutarde. Alain Juppé, 75 ans, continue de se lever pour se rendre au Conseil constitutionnel, alors qu'il pourrait végéter en slip de bain au bassin d'Arcachon, son coin, où il se ferait gober par des Parisiens qui l'ont pris pour une huître. Il crierait, mais enfin, lâchez-moi, ce n'est pas une perle que vous avez trouvée là, c'est mon piercing au pénis. Et tiens, prenez Harrison Ford, l'acteur d'Indiana Jones. Petit, c'était mon idole. Je rêvais d'être en sueur avec un fouet comme lui. Une fois adulte, j'ai découvert que pour 80 euros, dans un ou deux clubs, on pouvait vivre ça. Hein, sans pantalon explorateur en plus, c'est bien, parce que comme ça, on n'a pas l'impression que vous travaillez à Nature et Découverte. Hein. Indiana Jones, ça m'attirait et en même temps, ça me terrifiait. Manuel Valls ressent la même chose de nos jours pour la gauche française. Toutes ces araignées, ah, ça ressemblait à Fort Boyard, mais sans Miss France 2019, qui tente de ressortir de l'anonymat en tripotant des migales. Moi, je me souviens d'une scène d'Indiana Jones où une sorte de sorcier arrachait à main nue le cœur d'un ennemi. L'autre hurlait des trucs en aztèque ancien. Yawalaka! Ce qui voulait dire, hé mec, t'as trouvé dans mon sac banane une carte de donneur d'organes ou alors tu t'es cru chez ta mère et tu fais ce que tu veux. Bref, Indiana Jones, c'est la fougue, c'est l'aventure. Personne n'a envie de voir Indiana devant la télé en train d'attendre le début de Demain nous appartient. Parce qu'on souhaite collectivement que Nagui reste leader sur la responsable des achats afin qu'il se sente bien et continue à répondre, yes, j'ai la patate. Je me sens comme Hanouna s'il avait été invité à bruncher chez la veuve de Pablo Escobar à la question, ça va? Or, Harrison Ford, à 78 ans, vient de signer pour le cinquième volet. Et ça risque d'être décevant, comme le troisième bronzé quand on a réalisé que Jean-Claude Duss avait pris 18 tailles de tour de hanche à cause de l'abonnement de Michel Blanc au Cercle de la Forme. Un Jones vieux qui a mal au genou et déclare aux nazis « Écoutez donc le dernier Julien Clerc, personne n'en veut ». Et hier, j'ai lu sur plusieurs sites web, le web c'est cette encyclopédie géante qu'on nous promettait et qui est devenue avec le temps une usine de vidéos achats, que pour le film, Harrison Ford allait être rajeuni. Alors non, ils ne vont pas lui mettre un badge avec écrit « Les Millennials » avec François Ruffin, mais des gens ont remarqué sur une photo du tournage qu'Harrison avait des points blancs sur le visage. Si la chaux et devient rouge, on pensera que c'est une aménite tumouche. En fait, ce serait non pas des verrues purulentes, mais des points de capture qui ensuite sont analysés par ordinateur, on clique deux, trois fois, et hop, l'acteur de 78 ans n'a plus une ride. On a envie de lui demander s'il est en stage de troisième. D'ailleurs, je crois que dans le film, Indiana Jones fera des cafés en open space. C'est après qu'il réalise que l'open space a été construit sur un ancien cimetière maya, et que c'est pour ça que la photocopieuse sort par jour 3000 feuilles à 4 avec juste la tête tête de Belzébuth. Donc l'interrogation de la presse ciné, c'est est-ce qu'ils font ça pour des flashbacks où Indiana apparaît très jeune, ou alors vont-ils le rajeunir dans le film entier parce qu'il est trop vieux, ce qui ouvrirait la voie à tous les délires. Hein, derrière, vous pouvez tourner le remake de Yamakasi avec Charlotte Rampling. Hein, il suffit de lui mettre des points blancs et de la lancer depuis le premier étage d'une tour à Saint-Ouen. Hein, une fois le travail informatique réalisé, on la voit faire 4 tours sur elle-même. Hein, elle finit par la T de Lasca qui lui demande son 06. Et là, je me dis qu'enfin, Fabrice Luchini va pouvoir entamer une carrière d'acteur de Kung Fu de 25 ans. Hein, parce qu'on est d'accord qu'on n'en peut plus de le voir dans des rôles de type interloqué qui fait des yeux ronds en exprimant son mal-être à travers des phrases de 300 mots. Bref, rajeuni ou pas, Indiana Jones, le 1, le 2, les meilleurs hein, pour moi, c'était hier. Tempus fugit, comme disaient les latins. Ah mais c'est pas vrai, mon gratin dauphinois a brûlé, comme disait ma tante.
Merci.
Et on te retrouve le 10 juillet à Olivet, près d'Orléans, pour le festival La Bamboche.
Oui.
Oh, ça va être bon, ça.
C'est pas une vanne?
Non, non. Ouais. Un festival, ça s'appelle vraiment La Bamboche.
La Bamboche.
La Bamboche. Wow.
Mais ça va être chouette.
Et la culture, oui. Avec la Cadombo Dédi. Ah.
Une immense star américaine vient d'annoncer son grand retour avec la sortie d'un album, le premier depuis 15 ans, et le premier aussi intégralement original depuis 22 ans. Oh de qui là. S'agit-il?
Elvis.
Si je vous la fais en pyramide en trois briques.
Ouais. Pyramide.
Détroit.
Pyramide.
Ah, Iggy Pop?
Non.
Bah non, il est...
C'est une femme ou un homme?
En deux, Motown.
Ah, Motown.
Sam Cooke.
Femme.
Femme.
Diana Ross.
Un Jackson.
Diana Ross, bravo.
Ouais, forcément.
Dirty
et
Diana.
Upside Down, pour se faire plaisir.
Upside Down, bien sûr.
Eh oui.
Allez. Tous debout.
Donc Diana Ross est de retour avec son album Thank You. Elle a travaillé avec Jack Antonoff qui a produit notamment Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde. Elle a coécrit les 13 titres avec des auteurs qui ont œuvré pour elle comme Mary J. Blige, Alicia Keys, Björk, Madonna. Et on écoute un petit son justement de ce premier titre.
Mais non,
oui.
Ah, dommage.
Ça existe déjà, non? Non, mais
c'est le premier single à sortir.
Non, ce qui est bien, c'est que c'est un son très actuel, comme pourraient les faire aller Bruno Mars et autres. Et qu'en même temps, ces Bruno Mars-là s'inspirent aussi de tout ce qui avait pu venir dans les années 80.
Ouais. Donc c'est un retour d'ascenseur assez justifié. Très bien. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, vous, en ce moment, Riyad?
Moi, c'est un petit peu rabat-joie. J'écoute de la musique classique. Quoi.
Oh.
Ouais.
Genre.
Non, alors c'est. Non.
Non, mais vous écoutiez aussi
du trash metal, mais ça, c'est quand j'étais plus jeune. Maintenant, alors, comme en plus, je suis en train d'écrire un scénario, j'ai besoin d'écouter la musique de gens plus intelligents que moi, genre Bach et tout. Donc,
parce que la trash metal, c'est pas plus intelligent que vous?
Bah, ça dépend, il y a une sorte d'énergie.
Ça
perturbe pas les mêmes endroits du cerveau.
Ça peut perturber la concentration. Vous avez besoin de musique, en tout cas, pour travailler.
Ouais, et par exemple, Bach. Ouais. C'est souvent des mélodies assez qui peuvent paraître simples mais qui se superposent, etc. Et je trouve que c'est une sorte de métaphore des idées. Enfin, ça, c'est comme si on était accompagné à essayer de à faire quelque chose de constructif.
Ouais.
Je sais pas, voilà.
Une sorte d'effervescence d'idées. Ouais.
Les cahiers d'Esther, vous écoutez quoi?
Bon, en général, j'écoute des musiques modernes. En effet, par exemple, Aya Nakamura, ça peut m'arriver pour essayer de me mettre dans l'esprit du personnage.
Et avant d'évoquer le film, est-ce que comme Diana Ross, 15 ans sans faire de BD, ou en tout cas de chanter pour elle, ce serait envisageable?
15 ans sans que je fasse de BD?
Ouais. La retraite, non. Ça serait quoi de Riyad Satouf?
Non, mais c'est la seule chose que je... Sinon, je ne sers plus à rien.
Surtout, nous, on ne saura plus qui inviter.
Ouais, non, mais c'est sûr.
Ça fera trop dans le planning, hein, je peux vous le dire.
Vous n'envisagez jamais d'arrêter de dessiner?
Non. Bah peut-être un jour je serai obligé pour raison de santé. Je suis un peu hypochondriaque, mais pour l'instant non.
Vous dessinez comment, sur une palette graphique ou c'est du papier, un crayon, du feutre, de la peinture?
Alors il faut savoir que sur les palettes graphiques on dessine quand même avec un crayon. C'est toujours la même chose.
Mais c'est pas le même.
C'est exactement pareil. On peut faire des pleins et des yeux. C'est exactement pareil.
Ah
je vous assure que c'est la même chose.
D'accord.
La seule chose que ça change, c'est que on peut gommer plus facilement et qu'à la fin on n'a pas un dessin original.
Ouais.
C'est plus compliqué à froisser en plus.
Voilà.
Et qu'on n'a pas à recharger son crayon.
Ben voilà. Voilà, je fais les deux. Je dessine sur papier puis à la tablette aussi.
Et le film?
Ah bah j'aimerais bien refaire un film un jour, peut-être.
Mais là vous êtes en train de travailler sur un scénario?
Un petit peu secret, quelque chose qui me dit quelque chose.
Autour des jeunes?
peut-être pas moins jeune, quelque ah, chose.
Vous avez la carte de fidélité, vous pouvez tout dire.
Ouais. Et genre, c'est plus un succès ou un bide
Si c'est un Jackie, on prend.
Disons que j'aime bien parler des projets quand ce sont eux qui font parler d'eux-mêmes, plutôt que d'en parler avant qu'ils soient faits. Sinon, dans le cinéma, on ne sait jamais si ça va se faire vraiment comme on...
Oui, enfin, vous ne prenez pas beaucoup de risques à dire, c'est autour d'une bande de jeunes de 20-25 ans.
Non, ce n'est pas avec des jeunes. Non. Non.
Ah. Et voilà, on a
dit
qu'est-ce qui se passe?
Quelque chose de voilà, mais
OK. Autre chose.
Autre question, si je vous dis Pénélope Bagieu, Catherine Meurice et Chris Ware.
Chris Ware?
J'ai le droit de répondre pas,
non, moi, bien sûr.
Si, si. C'est ceux qui sont nominés au Grand Prix d'Angoulême.
Absolument, ce sont les finalistes et ce Grand Prix sera remis le 23 juin. Le prix est attribué à la suite d'un vote de la communauté d'auteurs professionnels. La première étape donc a désigné ces trois auteurs dont je viens de vous parler. Enfin, on fait de la place aux femmes, Riad Satouf. Il y a deux femmes dans ces trois finalistes, c'est quand même assez exceptionnel. Je sais que vous avez fait partie de cette génération qui avait beaucoup milité pour la représentation des femmes dans ce milieu. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil BD d'une autrice?
Par exemple, tout à l'heure, je vous ai cité Posy Simmons. Ouais. Je crois vraiment, je vous conseille vivement de lire ces livres parce qu'ils sont très accessibles. C'est un génie du dessin et extrêmement dense. Alors, il y a Tamara Drew, Gemma Bovary. Ouais.
Vous allez dans une rue.
Qui a été adapté en film. C'est génialissime. C'est marrant, c'est drôle, c'est ultra profond. Vraiment, c'est une autrice à découvrir. Posy Simmons.
Posy Simmons.
Okay.
She's great. Thank you, Ria.
She's amazing.
Danielle Marie.
Alors non, ce n'était pas une bonne idée. Non, pas une bonne idée, la fin de l'obligation de porter les masques dehors. Nos corps sont moins armés pour lutter contre les agressions extérieures. Moi, rien que ce matin, j'ai chopé une grippe, une gastro et un bouton de fièvre. Bref, aujourd'hui, c'est aussi l'épreuve du bac. Et comme il n'y a pas de hasard, le bac de philo, c'est aussi la sortie du premier numéro du magazine intitulé « Je vous aime », le magazine de Patrick Sébastien. Attention, le jeu de « Je vous aime » s'écrit J-E-U. X.
Jeu de mots,
voilà.
J'aime beaucoup.
Ah, c'est jamais le dernier quand il faut faire un bon jeu de mots, Patrick. Je ris. Et s'il fallait une autre preuve pour souligner que le hasard n'existe pas vraiment, ou vraiment pas, c'est aujourd'hui aussi, jour de sortie du MAC de Patrick Sébastien, qu'Emmanuel Macron va déclarer la lecture comme grande cause nationale. Pensait-il au magazine de Patrick Sébastien quand il pensait que la lecture devait être une grande cause nationale, Emmanuel Macron? Je pense que oui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Patrick Sébastien, c'est la vie, c'est la joie, c'est la simplicité, c'est le bonheur tout court et pourtant immense. Le magazine de Patrick, c'est ça qu'on attendait. Et attention, parce que ça, c'est loin d'être la fin. Que de bonnes nouvelles du côté de chez Patrick. Après le magazine Je vous aime, Patrick Sébastien va plus loin. Écoute ça. Une pièce de théâtre, pièce intitulée Louis XVI.fr. J'en ris à l'avance. Une tournée de 50 dates du plus grand cabaret du monde. J'en pleure de joie. Et une nouvelle commande de la part de C8 pour samedi, Sébastien, larme de bonheur. Et puis des projets de fiesta télévisée avec Cyril Hanouna. Je ris double. Le Covid s'en va, Patrick revient. Show must go on, my teller is rich, porque te vas. La boucle est bouclée. Bon, pour conclure, petit avertissement, les amis, attention, danger. Si cet été, vous comptez faire trempette dans l'Atlantique, sachez que Nokumi est en route.
C'est quoi?
Nokumi est en route.
Un complot de quoi, ça?
Elle a quitté les côtes américaines, se dirige droit vers nous. Alors, oui, qui est Nokumi? Nokumi, à ne pas confondre avec Katsuni, Nagi. Nokumi est une femelle requin blanc. Mais attention, il y a requin blanc et requin blanc. Et Nokumi, gros dossier. Hein. Requin blanc le plus gros recensé en ce moment, plus de 5 mètres, plus de 2
mais
tonnes.
Non.
Si elle arrive vers toi, c'est comme si devant toi, il y avait un bus avec des dents qui veut te bouffer. Nokumi, c'est la Gérard Larcher des mers. Alors voilà, vous êtes prévenus, je résume, cet été, tous avec Patrick Sébastien, et on ne va pas nager dans l'Atlantique.
Merci, dernièrement. Dans le cahier d'Esther, dans les cahiers d'Esther, l'histoire de mes 15 ans, il y a toutes les scènes que l'on a pu vivre, c'est-à-dire les zooms, c'est-à-dire on mange pendant les cours, on apprend à faire de la cuisine, papa devient un grand pâtissier ou cuisinier, c'est ça?
Esther fait des sortes de galettes.
Il y a la recette officielle de la galette bretonne
sans
dedans.
Œufs.
Tout à fait, sans œufs. Ouais, sans œufs. Alors sans il y a plusieurs écoles. Moi j'aime bien avec œufs, mais elle fait sans œufs.
Ouais.
Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, c'était une petite compilation de tout ce qu'on pouvait faire quand on était enfermé
Et puis, il y a Esther qui lit les cahiers d'Esther.
Oui, alors à chaque volume, je lui fais lire le volume d'avant. Et puis elle me fait son bilan.
Un débriefing.
Un débriefing assez pointu.
Et puis dans l'idée de la clope, parce que ça c'est de raconter les premières taffes comme ça et ses premières réactions, c'est aussi un peu particulier parce que vous savez pas de quel côté de la ligne elle va basculer, de côté non fumeur ou côté fumeur.
Alors,
est-ce que c'est interdit ou pas par les parents?
Voilà, mais alors je raconte rarement de choses qu'elle n'ait pas déjà dit à ses parents. D'ailleurs, c'est souvent, parfois son père me dit, oh, tu devras l'appeler là, elle a été collée là. Elle a été collée, appelle-la.
Ben voilà, il
balance des trucs.
Non, ça, c'est le père.
Ah, il est bizarre.
Et donc, c'est vrai que elle s'était fait choper en train de fumer une cigarette. Donc, évidemment, je lui raconte. Et ouais, je pense pas qu'elle va se mettre à fumer. Mais alors, c'est marrant parce que par rapport au tabac.
Elle a pas l'air d'avoir aimé le goût, en tout cas, et l'haleine qu'elle a.
C'est impressionnant, le tabac, par exemple. Moi, j'ai découvert que comme c'est devenu très, très cher, et ben, dans son lycée Bourges, c'est chic de fumer parce que ça veut dire que t'as les moyens de te payer des clopes.
Ouais.
C'est incroyable. L'effet pervers ultra bizarre. Ouais, c'est vraiment, on peut pas inventer un truc comme ça.
Est-ce qu'elle est de moins en moins, inquiète du regard des autres?
Ah non, de plus en plus, au contraire.
C'est l'inverse.
Oui. Quand elle fait un jogging, il y a 4 joggeurs autour d'elle en train de la suivre. Elle est obligée de mettre son pull autour de sa taille pour cacher ses fesses parce qu'elle a l'impression que les mecs lui suivent. Non, le regard extérieur est... Et de plus en plus.
C'est super violent d'être obligé de mettre un pull autour de sa taille pour se cacher.
Vous regarderez les joggeuses, il y en a beaucoup qui font ça. Moi, j'ai découvert ça, j'avais jamais capté le.
Enfin, les regardez pas trop parce que du coup, elles vont rajouter un pull.
Oui, c'est ça, ça devient gênant.
Ça leur donne une autre raison.
C'est bien gênant. Est-ce qu'il y a des histoires que vous interdisez de raconter? Est-ce que vous, en parlant avec elles, vous lui dites non, ça, on va pas le dire?
Bah, souvent, ça va être quand elle justement me dit « tu devrais mettre son vrai nom, c'est un connard » par exemple.
Ouais, ouais.
Ça, je le fais pas.
Ça, c'est la vie privée, mais quand je parle de sujet...
Non, franchement non, parce que ce sont les histoires qu'elle-même me raconte, que je recherche pas le sensationnel ou l'intime de machin. Enfin, même, par exemple, les histoires de petits copains, moi personnellement, ça m'ennuie un petit peu souvent. Donc elle va m'en parler, je vais pas en parler, je me dis... Bon, les mecs qui sont séduisants et que toutes les filles veulent sortir, j'ai déjà fait des pages là-dessus.
D'accord. Hein.
Voilà, mais il n'y a pas d'histoire où je me dis « Ah non, ça, je ne peux pas en parler » ou « Non, jamais ».
Et à l'inverse, on ne voit pas trop ce qu'elle apprend, par exemple, à l'école ou ce qu'elle apprend en voyant des documentaires sur les plateformes
ou à la télé.
Elle
est très bonne élève.
Oui,
ouais, c'est vrai. Ouais. Les sujets de cours, c'est vrai que ça pourrait être des pages que je pourrais faire en plus. Là, elle m'a parlé récemment d'un livre qui l'avait fait extrêmement rire, qui était Le rhinocéros de Ionesco. Je vais faire des pages là-dessus. J'ai découvert ce livre, je ne l'avais jamais lu. C'est vrai que c'est très rigolo.
Non, c'est de revoir la culture, entre guillemets, générale et scolaire par le prisme d'une adolescente de 15 ans aujourd'hui. C'est sûr que c'est intéressant. Mais voir la vie aussi par le regard d'Esther, c'est intéressant. Embrassez-la pour nous.
Merci.
En tout cas, parce qu'on l'aime, cette Esther, et on a hâte de connaître sa vie, même avec un nom de décalage. Ça nous va. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Évidemment. Déjà désolé pour Isabelle Carré, invitée déjà 132 fois dans la bande originale, qui m'a appelé à la pause pour me dire qu'elle n'en pouvait plus d'entendre Riyad Sattouf à un micro qu'elle considère comme le sien. Désolé, mais après 150 invitations, Riyad est de fait sous contrat CDI avec France Inter.
Ah oui,
on n'y peut rien.
Les présidents ont décidé.
Désolé pour Esther. Et oui, Esther m'a appelé également à la pause, décidément. Elle m'a demandé qu'on arrête d'inviter Riyad Sattouf pour l'Arabe du futur ou un éventuel Pascal Brutal. Le melon de la fille. Désolé maintenant pour vous, Riyad Sattouf qui nous a confié des sanglots dans la voix, que personne ne matait son petit cul musclé quand il allait chercher son pain. Venez avec moi, Riyad, viens mon Riri, je connais une boulangerie très, 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 très festive.
Merci Riyad Sattouf.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Je rappelle, les cahiers d'Esther, histoire de mes 15 ans, c'est passionnant, c'est drôle, c'est intelligent, c'est bien dessiné, j'ai quand même oublié de dire l'essentiel, parce qu'on parle de bande dessinée.
C'est fini maintenant.
On a oublié de dire que c'était bien dessiné et colorié. C'est aux éditions Alary.
Tout juste.
Demain, Michel Bougenat sera notre invité. Bonne journée sur Inter avec Alain Campagne.